som chcel poďakovať za celý týždeň, ako ste nás prijali.
A vám dám de prier de façon plus précise pour votre pays et pour cette église.
Alors,
la famille aussi de l'Ukraine et la famille Boyle, au mieux. Merci pour ton invitation, vraiment. Et on a vraiment passé un bon temps. Merci aussi pour votre concentration.
Qui
dans l'écoute de la parole de Dieu.
Ako počúvate slovo Božie.
Donc nous partons demain après le déjeuner.
Takže po ranejkách zajtra odchádzame.
Pour la France.
Do Francúzska.
Et donc, bon fin de séjour pour vous ici.
Takže ešte vám prajeme, aby ste si udeli ten zbytok
závora.
A uvidíme sa čo skoro niekde.
Alors ce soir, je sais qu'il y a un peu de camp après.
Takže viem, že máme tábora potom.
Et je vais pas être trop long. Peut-être on pourra prolonger un petit peu autour du feu s'il y en a qui le désirent. Mais j'aimerais vous parler d'un principe très important dans la vie chrétienne. Père Céleste, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour.
Ďakujeme ti za tvoju lásku,
pour ta fidélité,
za tvoju vernosť,
pour ta douceur,
za tvoju jemnosť,
pour ta patience,
za tvoju trpezlivosť.
Gloire à toi.
Sláva ti, Bože.
Merci pour le corps de Christ.
Ďakujeme ti za telo Kristovo.
Merci pour ta parole.
Ďakujeme ti za tvoje slovo.
Merci pour ton esprit qui nous éclaire.
Ďakujeme za tvojho ducha, ktorý nás osvetľuje.
Et Seigneur, aide-nous à saisir ce soir ce que tu veux nous communiquer.
Pane, pomôž nám, aby sme pochopili to, čo nám chceš dnes večer
povedať. Prijmi sa o tom.
Môžeme sa tvojom mene. Amen.
J'aimerais qu'on parcourt ensemble Zacharie chapitre 4.
Takže Zachariáš, poď tam kapitola.
Zacharie chapitre 4.
Zachariáš, poď tam kapitola.
Donc ce livre fait partie des trois livres qui ont été écrits par les prophètes qui se situent après la période de l'exil à Babylone.
Donc
nous avons trois livres, Agée, Zacharie et Malachie. Et lorsque le peuple est rentré à Jérusalem, et s'il est rentré, c'est parce que Dieu l'avait prédit. Il l'avait prédit au travers du livre de Jérémie. Et Dieu avait prédit que cette captivité à Babylone durerait 70 ans. Et au bout de 70 ans, le peuple a eu le droit de revenir sous le règne de l'empire Cyrus, qui était un Mède et un Perse. Et donc le peuple a eu l'autorisation de revenir à Jérusalem. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une grande partie du peuple qui est revenu.
Čiže musíme si uvedomiť, že nie je veľká časť izraelského ľudu sa vrátila.
Parce que ça peut sembler bizarre, mais parfois quand on nous offre peut-être une nouvelle solution pour notre vie.
Možno je to divné, ale niekedy nám niekto ponúkne nové riešenie v našom živote.
Bah, on s'accroche finalement à nos habitudes et à ce que l'on a.
Ale my sa rozhodneme, že zostaneme v tých starých návykoch.
Et là, c'était le cas, c'est que vous aviez des Juifs qui avaient commencé à faire du commerce à Babylone. Ils avaient réussi à faire leur vie. Et ils n'avaient pas envie de tout laisser pour reconstruire quelque chose en terre promise. Et donc, il n'y a qu'une partie du peuple qui est revenue avec Néhémie et Ezra.
Takže len časť ľudu sa vrátila Nehemiášom a Ezrášom.
Et puis, lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem, ils ont été un peu déçus. Parce qu'ils ne s'attendraient pas à voir un champ de ruines comme ils étaient en train de le voir. Parce que vous savez, les Babyloniens avaient tout rasé, ils avaient rasé le temple de Salomon. Ils avaient rasé les murailles, rasé la ville. Et comme le peuple avait été emmené en captivité, Jérusalem était devenue une carrière de pierre, de cailloux. Où tous les gens des environs venaient se servir pour construire sa maison. Et vous savez, quand on vient au Seigneur, on est parfois un champ de ruines. D'un côté, on a l'assurance de notre salut. D'un côté, nous avons une espérance. Et puis en même temps, on se dit, voilà, ma vie est un gros chantier. Je n'arriverai jamais à reconstruire ma vie sur quelque chose de solide. Et ce qui fait qu'on se décourage. On perd espoir. Et donc le peuple qui était revenu à Jérusalem ont d'abord eu comme souci de refaire leur vie personnelle. De reconstruire sa maison, de récupérer des terrains. Mais ils avaient complètement oublié la notion de peuple, de nation. Et pourquoi Dieu les avait ramenés en terre
promise?
Et notamment pour être un peuple de sacrificateurs. D'adorateurs. Et notamment, ils devaient reconstruire le temple et les murailles. Mais surtout le temple. Et vous savez, ça correspond souvent à cette forme de christianisme que nous avons aujourd'hui. Où finalement on cherche Dieu pour avoir une vie meilleure, mais sans considérer peut-être le plan de Dieu pour son peuple. Et donc, du coup, l'Église devient presque un service social. Alors qu'en réalité, chaque membre peut lui-même apporter à l'Église plutôt que prendre. Parce que la vie chrétienne, c'est un échange où tout le monde participe. Et donc le prophète Agé avait été élevé par Dieu pour reprendre un peu le peuple. En leur disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il faut reconstruire le temple. Et on voit que le peuple a bien répondu. Et ce qui fait qu'ils ont commencé à faire les fondations du temple et à construire le temple. Et pour les encourager, Dieu a élevé un autre prophète qui est Zacharie. afin de leur donner une vision supplémentaire durant leur travail. Et puis aussi pour leur donner une vision à long terme pour la nation d'Israël. Ce qui fait que les premiers chapitres de Zacharie sont constitués de 8 visions. Et là, lors d'une de ces visions, nous lisons au chapitre 4 ceci. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et c'est un peu ce qui se passe parfois quand Dieu parle. C'est comme si Dieu nous réveillait de notre sommeil. Parce que parfois on dort, les jours passent, les mois passent, les années passent, le temps file comme du sable. On dort. Et Dieu veut nous réveiller à travers une vision qui vient d'en haut. Regardez à ce qui est éternel. Ouvrez les yeux. Il n'y a pas que votre vie. Il y a notre vie ensemble. Notre vie ensemble avec Dieu. Et elle est là, notre espérance. Bien sûr, il y a l'espérance individuelle. Je suis sauvé. Mais imaginez que je sois seul pour l'éternité. Ce qui est glorieux, c'est que je ne serai pas seul dans l'éternité. Il y aura plein de gens avec moi. Des frères, des sœurs. Et Dieu au milieu de nous. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et elle est là, notre espérance. Et c'est ce que nous commençons à vivre dans l'Église. Et c'est ce que Dieu voulait pour son peuple en Israël. Bien sûr, votre maison est importante. Bien sûr, votre jardin est important. Mais le temple pour me célébrer. La raison d'être d'Israël. Un peuple avec l'Éternel au milieu de lui. C'est ce qui faisait la différence. Et donc là, le prophète, comme le peuple, est comme réveillé dans son sommeil. Réveillons. Regardez cette vision. Et là, regardez ce qu'il me dit, au verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Le surplombant, 2 oliviers. L'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Donc là, nous avons une vision extraordinaire. Je vous assure, c'est extraordinaire. Regardez ça. Lorsqu'il y avait le temple à l'époque, avant le temple de Salomon, dans le lieu saint, qui avait-il? Il y avait les pains de proposition, il y avait les aromates qui brûlaient, et il y avait un chandelier. Et comment était fait ce chandelier? Il y avait un pied, un socle, et puis en haut, il y avait sept branches.
Et
comment ces sept branches étaient allumées? Et elles devaient être allumées 24 heures sur 24. Comment elles étaient allumées? Et bien, en fait, dans le pied, il y avait de l'huile. Et les sacrificateurs devaient fabriquer cette huile. Ils devaient écraser les fruits, les olives. Et ils mettaient l'huile dans le pied du chandelier. Et puis ensuite, il y avait des mèches qui sortaient, il y avait sept mèches qui sortaient. Et en français, on appelle ça capillarisation, c'est-à-dire que ça remontait comme ça. Et donc l'huile remontait dans les mèches. Et donc, elles étaient tout le temps allumées. La seule chose que les sacrificateurs devaient faire, c'était de temps en temps, on appelle ça en français moucher, mais on coupait un peu les mèches avec des ciseaux. Afin que la flamme soit bien nette, bien propre, bien brillante. Et ça, c'est le travail de Dieu dans notre vie. Où il vient un peu et puis il taille un peu dans notre vie pour qu'on brille. Et puis il fallait mettre l'huile jour après jour dans ce pied. Parce que dès qu'il n'y avait plus d'huile, les flammes s'éteignaient. Mais là, dans cette vision, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec le temple de Salomon. Ça n'avait rien à voir avec la loi de Moïse. Et pourtant, c'était une prophétie de Dieu. Mais c'était une vision pour l'avenir qui était encore plus belle. Parce que quelle était cette vision-là? Là, en français, le mot hébreu que l'on traduit en français, c'est pas chandelier, c'est candélabre. Mais bon, c'est une autre sorte de chandelier. Et qu'est-ce que c'était ce candélabre? Si vous lisez bien ce qu'on vient de lire, relisons ensemble verset 2. Ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet. Le vase n'est pas en bas. Le vase n'est pas en sommet. Et à côté de ce vase, il y a deux oliviers. Et pourquoi ce candélabre est très différent, ce chandelier est très différent? Parce que à l'époque du prophète et même au temps de Jésus-Christ, il y avait deux sortes d'huile d'olive. L'huile d'olive classique que l'on fabriquait telle que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et une autre huile très très chère qui valait une fortune. Et comment a été fabriquée celle-là? En fait, elle n'était pas fabriquée. Je répète, elle n'était pas fabriquée. Et là, nous rentrons dans le vrai accompli. Nous rentrons dans ce que Dieu a fait pour nous et où nous n'avons pas besoin de faire. Ce que l'on faisait, c'est que sous certains oliviers, on mettait des coupelles, des bassins, Et on laissait les olives mûrir jusqu'à ce qu'elles commencent à faire des gouttes d'huile. Et donc ce n'était pas de l'huile avec des olives écrasées, c'était de l'huile naturelle qui tombait du fruit. C'est pour ça que ça coûtait très cher. Parce que pour une olive, vous n'aviez que quelques gouttes d'huile. Mais il y avait un nectar, une odeur incomparable. Et là, le candélabre, c'est ce vase qui est en haut du chandelier. Avec les deux oliviers à côté. Et ce sont ces oliviers qui fabriquent l'huile. Ce n'est pas le sacrificateur dans le temple.
Ce
n'est pas le croyant.
Ce
n'est pas une vision de la loi de Moïse. C'est une vision de l'œuvre accomplie. Et si on continue, regardez ça. Verset 4. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que cela, mon Seigneur ? C'est sûr que Zacharie, qui connaît la loi, ne comprend pas ce qu'il voit. Il est obligé de poser des questions. Et là, l'ange, verset 5, qui parlait avec moi, me répondit, ne sais-tu pas ce que c'est ? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Alors Zorobabel, c'est un personnage très important. À l'époque de Zacharie, c'est le chef politique. Il fait partie de la tribu de Judas. Il est un descendant de David. Et si la nation avait été indépendante, c'est lui qui aurait été le roi. Mais comme ils étaient encore vassaux de Babylone, ils ne pouvaient pas être roi. Et Zorobabel, ça signifie rejeton de Babylone, ou rejeton de Babel. Un rejeton, une pousse. Donc, cet homme est né à Babylone. Sans espérance. Mais là, Dieu conserve la lignée de David. Et l'amène dans un processus de restauration. Parce que dans Zacharie chapitre 3, c'est le sacrificateur Josué qui est restauré. Et ça, c'est la restauration du sacrificateur. Et là, Zorobabel va être restauré et c'est la restauration du pouvoir royal. Et là, nous avons les deux facettes du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre sacrificateur et en même temps il est notre Seigneur. Et donc cette partie de la Seigneurie de Christ est vitale aussi pour notre vie. Parce qu'il faut qu'il y ait une autorité et une puissance pour agir. Tout comme Israël a besoin d'un sacrificateur, Josué. Et si Josué n'était pas restauré, Israël n'avait plus de relation avec Dieu. Et Mais si Zerubbabel n'est pas restauré, il n'y a pas non plus de pouvoir politique en Israël. Et donc voilà ce que Dieu dit à Zerubbabel. Celui qui sort de Babel, là. Celui qui n'avait plus d'espérance. Tout comme nous, parfois. Moi, je suis un rejeton de Paris. Un rejeton de la France. Mais Dieu a quelque chose pour chacune de nos vies. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Zerubbabel? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce verset, on le connaît tous. Mais dans le contexte, là, il est parlé de la reconstruction du temple. Ah, c'est un chantier tellement dur. Nous, on s'attendait à voir le temple de Salomon avec un petit coup de peinture à refaire. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout à refaire. On n'y arrivera jamais. Mais Dieu veut encourager son peuple en disant, mais c'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit. Vous rappelez de l'huile ce matin? La corne d'huile qu'il fallait. Et là, l'huile, d'où elle vient? Est-ce qu'elle vient des prêtres qui fabriquent l'huile elles-mêmes, eux-mêmes? Non. L'huile vient parce qu'il y a la sacrificature.
Josué,
et parce qu'il y a aussi Zerubbabel,
l'autorité,
la royauté, et parce qu'il y a ces deux oliviers, il y a l'huile qui se fait toute seule. Ni par la puissance, ni par la force. Mes amis, pour avoir la puissance dans nos vies aujourd'hui, on en parle beaucoup, la puissance. Ah, la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Mais vous savez, c'est très simple. C'est de croire que j'ai quelqu'un qui intercède pour moi. Mon Josué. C'est Jésus. C'est le même prénom en hébreu. Yeshua. Et puis j'ai mon Zerubbabel. Dans le même chapitre, on voit que Jésus est appelé le germe qui va venir. Tout comme Zerubbabel était le rejeton, mais qui va être le Seigneur des Seigneurs. Et donc là, il est dit, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Ça, c'est la grande montagne de ruines qui est devant eux. Qui es-tu devant la puissance de Dieu? Devant Zerubbabel, tu seras aplani. Nous avons un Seigneur qui a la capacité d'aplanir nos sens. Nous avons un Seigneur qui a la capacité d'aplanir nos montagnes, d'aplanir nos impossibilités. Qu'est-ce que sont nos impossibilités devant Dieu? Ce sont nos impossibilités, mais ce sont ses possibilités. Parce que l'Esprit de Dieu va glorifier l'Éternel. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit là, partie B du verset 7? Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle.
On vynese posledný kámen zahlušného povolávania, milosť milostom.
La pierre de fait.
Čiže je to ten posledný kámen, ako ten...
Vous savez, quand on construisait une maison, il y avait deux pierres importantes pour la construction.
Keď sa stavali domy, tak tam boli dva dôležité kamene.
La première
prvý kamen,
et la dernière.
A posledný kamen.
Et lorsque Jésus dit qu'il va construire son église et que lui-même est la pierre de l'angle, ça c'est la première. C'est celle que l'on posait qui était une pierre parfaite et sur laquelle on se calait pour construire tout le reste de la maison. Et ça, c'est Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a posé la première pierre lorsqu'il a été à la croix. Le peuple de Dieu s'appuie sur ce fondement, l'œuvre accomplie à la croix. Et puis, à partir de là, l'église est construite. Tout comme à partir de la pierre d'angle, le temple était construit. Et puis, la dernière pierre, c'était celle que l'on posait, soit sur le toit, ou soit sur la
terrasse,
qui était parfaite aussi, et qui devait se placer exactement à l'endroit prévu. Et s'il y avait un peu d'espace ou de jeu, c'est que la maison avait été mal construite. Ça signifiait qu'il y a eu un problème. Et là, c'est cette pierre-là dont parle l'Éternel. Il dit à Zorobabel que, en fait, le temple est déjà construit. C'est peut-être une montagne.
Une
montagne de ruines qui va être aplanie. Et qu'est-ce qu'on va dire au jour? Il en sortira une pierre. Et on dira grâce, grâce sur elle. Parce qu'on réalisera que ce ne sera pas par la puissance et par la force. On réalisera que ça aurait été par grâce que ça aurait été construit. C'est par grâce que le temple va être reconstruit. C'est par grâce que l'église est reconstruite. C'est par grâce que nous sommes édifiés nous-mêmes une habitation de Dieu en esprit. C'est pas comme sous la loi où il fallait fabriquer son huile. C'est dans la nouvelle dispensation de la grâce où l'huile vient grâce à l'autorité de Jésus-Christ en tant que sacrificateur qui intercède pour nous et grâce à l'autorité de Christ en tant que roi, le deuxième Olivier. Parce que les deux personnages en Israël qui pouvaient être rois, c'était les sacrificateurs et les rois. Parce que les deux personnes en Israël qui pouvaient être rois, c'était les sacrificateurs et les rois. Lévitique chapitre 4, verset 5. Et 2 Samuel 1, 14. C'était les deux personnages réunis en Christ et devant ce candélabre. Nous sommes, nous, comme des vases de terre. Et on reçoit l'huile de Dieu. On reçoit son onction. Seigneur, c'est impossible pour moi. Mais tu as toute autorité. Aide-moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne veux pas être un chandelier comme au temps de la loi. Je veux être un candélabre comme au temps de l'Église. Où je reçois l'Esprit en abondance. Que ça soit ni ma force, ni ma puissance, mais par ton Esprit. Et quand ça sera fini, peut-être qu'un jour je verrai dans mon Église quelque chose qui se finit. Dans la vie de quelqu'un qui se convertit. Dans la vie d'un autre, quelqu'un qui devient disciple. Dans un pays où il y a un réveil. Je verrai cette pierre de fête à chaque fois. Et je dirai grâce, grâce. Parce que c'est l'œuvre de Dieu et je me suis attendu à lui. Lui qui est mon sacrificateur et mon roi. Et cette huile dont que je peux goûter a un parfum qui n'a rien à voir avec toute autre huile. C'est le parfum de Christ dans ma vie. Que Dieu vous bénisse.
Yeah. Thank you.